OK, on va commencer notre quatrième leçon ce soir dans notre série sur N'aimez point le monde, de la première épître de Jean au deuxième chapitre, verset 15. On va voir ce soir quelques applications basées sur le devoir du chrétien de ne pas aimer le monde. Alors, on rappelle la nature du verset 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, on va faire un bref rappel concernant les 6 leçons qu'on est en train de donner. Alors, la première leçon qui a déjà été donnée répondait à la question suivante: qu'est-ce que le monde et qu'est-ce qu'aimer le monde? Dans la deuxième leçon, on avait vu les 13 raisons pour lesquelles nous ne devons pas aimer le monde. Dans la leçon de la semaine dernière, on avait vu quels sont les rapports que les chrétiens doivent avoir avec le monde. Et ce soir, on va voir quelques applications qui sont basées sur justement le devoir du chrétien de ne pas aimer le monde. Et après, il va nous rester 2 leçons, 2 autres mercredis. Dans la leçon 5, on va voir d'autres motifs pour ne pas aimer le monde. Et dans la leçon 6, on va voir comment libérer notre cœur de l'amour du monde. Alors, dans nos 3 premières leçons, on avait étudié les 3 points suivants. Qu'est-ce que le monde et qu'est-ce qu'aimer le monde? Puis, nous avons étudié les 13 raisons données par la Bible pour ne pas aimer le monde. Nous avons aussi examiné quel rapport nous pouvons légitimement garder avec le monde. Et aujourd'hui, on va passer aux applications basées sur notre devoir de chrétien de ne pas aimer le monde. Alors, bien entendu, toute doctrine biblique est donnée par le Seigneur dans le but de changer et de transformer quelque chose dans l'âme du chrétien. En un mot, un enseignement biblique se doit d'être obéi. L'élu trouvera donc dans la doctrine un usage pratique dans sa vie de tous les jours. Alors, quelle est l'utilité de la doctrine de « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde » Le premier usage, c'est qu'elle nous informe de notre profonde corruption de nos natures. Alors, le chrétien, même régénéré, garde en lui cette tendance à aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Depuis la chute, leurs cœurs sont inclinés et rapides à aimer la créature plutôt que le Créateur. Alors, on a tendance à idolâtrer les choses du monde, alors consacrer notre temps, nos forces et nos pensées. Par conséquent, nous oublions Dieu et les choses plus importantes qui sont de nature spirituelle. Comme l'eau a tendance à descendre vers le bas et le feu à monter vers le haut, nos cœurs ont tendance à aimer le monde. C'est une maladie qui est commune à tous les hommes. Nos cœurs et nos natures sont très corrompus et prédisposés aux choses qui sont défendues. Tout cela devrait nous humilier et nous rappeler notre besoin constant de grâce et de repentance authentique. Comment pouvons-nous négliger Dieu qui seul peut dire « Je suis celui qui suis, toute ma substance, tous mes attributs et tout mon être » sont infiniment excellents. Je suis digne d'amour et cependant, je ne suis pas aimé tel que je le devrais. Le deuxième usage de l'étude de la doctrine « Ne pas aimer le monde », c'est que ça nous amène à une triste constatation que peu de chrétiens ne sont pas infectés par quelque forme d'amour du monde. L'amour du monde est si commun, même chez les chrétiens, qu'il peut parfois attirer des jugements de la part des inconvertis qui observent les comportements et les manières de penser des chrétiens et qu'ils puissent dire « Ces gens-là ont seulement une prétention à la grâce et n'ont pas une grâce qui sauve. » Et souvent, ils peuvent nous accuser d'être des hypocrites. Alors, dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, au verset 1, dans la version Martin, Paul dit, parce que tous cherchent leur intérêt particulier et non les intérêts de Jésus-Christ. Paul parle des chrétiens de son époque et constate que plusieurs aiment le monde et les choses du monde, les honneurs, les richesses, les plaisirs qui sont des choses qui plaisent à la chair et au vieil homme. Alors dans Apocalypse, chapitre 13, verset 3, le Seigneur nous rappelle, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Le troisième usage de l'étude de 1 Jean 2,15, c'est que ça nous rappelle que nous devons pratiquer le véritable contentement. Nous devons être pleinement contents des situations dans lesquelles la providence de Dieu nous a placés. Hébreux chapitre 13, verset 5. Que vos cœurs soient sans avarice, étant contents de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » On a aussi 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 10. « Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain. » Alors, je rappelle aux auditeurs d'Internet que s'il y en a qui veulent étudier la doctrine du contentement, on a fait une série là-dessus que vous pourrez trouver sur le site web. Car nous n'avons rien apporté, verset 7, car nous n'avons rien apporté au monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous puissions être couverts, cela nous suffira. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans le piège, et en plusieurs désirs fous et nuisibles qui plongent les hommes dans le malheur et dans la perdition. Car c'est la racine de tous les maux que la convoitise des richesses, de laquelle quelques-uns étant possédés, ils se sont détournés de la foi et se sont enserrés eux-mêmes dans plusieurs douleurs. Quatrième usage, elle nous sert de réprimande. Alors la doctrine biblique de ne pas aimer le monde sert à condamner les manières d'agir, de parler et de penser des chrétiens professants et même ceux possédant la véritable grâce. Alors, on fait une différence entre professant et possédant, mais que ce soit un groupe ou que ce soit l'autre, chacun peut souffrir de ce mal. Alors, que ce soit les chrétiens professants et même ceux possédant la grâce divine, pratiquent les choses défendues par ce commandement divin. La deuxième chose qui nous sert dans l'étude d'un Jean 2,15, c'est vraiment, ça nous amène à un examen sérieux de nos cœurs. Alors l'auteur que j'utilise, il mentionne 7 questions pour nous aider à sonder nos cœurs avec impartialité. La question numéro 1. Sommes-nous plus concernés par les choses du monde que par celles du ciel et par les choses spirituelles? Il est remarquable d'observer comment nous sommes soucieux d'obtenir les meilleurs achats ou aubaines, comment nous dépenserons notre énergie pour s'assurer de nos titres de propriété, que ce soit des immeubles ou des terrains, d'assurer nos biens, etc. Nous sommes cependant attristés de voir comment nous pouvons négliger les choses de plus grande valeur qui sont reliées à notre condition éternelle de nos âmes. Pourtant, les Saintes Écritures nous donnent de saints avertissements. Philippiens chapitre 2, verset 12. « C'est pourquoi, mes bien-aimés, ainsi que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, employez-vous à votre propre salut avec crainte et tremblement. » 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 10. C'est un passage important pour nous faire réaliser que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre croissance et pour être près de lui, et que ça sert aussi à nous affermir dans notre vocation et dans notre élection. Ça nous dit, puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Vous donc, aussi y donnant tous vos soins, ajoutez la vertu à votre foi, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle et ne voit point de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, mes frères, étudiez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Le mot vocation, là-dedans, c'est le mot appel. Vraiment, on se doit de s'étudier à affermir notre appel qu'on a eu et notre élection, parce que ça nous dit, si on le fait, on va être solide et on ne bronchera jamais. Alors, la version King James utilise l'expression « giving all diligence » pour traduire « y donnant tous vos soins ». La diligence, c'est l'activité empressée dans l'exécution d'une chose. C'est la célérité. Alors, la célérité, c'est une grande rapidité dans le geste et dans l'action. C'est l'empressement. C'est le zèle. C'est une chose comparable au zèle quotidien de l'athlète qui travaille sans cesse, n'épargnant aucun sacrifice et persévérant avec acharnement pour gagner un titre olympique. Alors, vraiment, c'est le type d'activité qu'on se devrait d'avoir pour acquérir ces choses-là et y ajouter une chose à l'autre. Est-ce qu'on est dans cette catégorie de zèle-là? J'en suis moins sûr un peu. Mais ça devrait être ça, parce que c'est vraiment « giving all diligence », c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on se devrait d'être rapide pour faire ces choses-là et vraiment de le faire avec persévérance. La deuxième question, est-ce que les choses du monde bousculent, entrent en concurrence et jouent du coude avec les choses de Dieu dans nos vies? Alors, les loisirs, la télévision, Internet, les sports occupent souvent une trop grande place dans nos vies, et ceci aux dépens de nos vies d'adoration, de nos vies de prière, de nos vies de culte, de nos activités d'évangélisation et aussi de communion fraternelle. Nous sommes prompts à utiliser une multitude d'excuses pour justifier nos comportements. Par exemple, dans Luc 14, ici c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle, versets 17 à 20. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur pour dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais ils commencèrent tous, unanimement, à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un héritage et il me faut nécessairement partir pour l'aller voir. Je te prie, tiens-moi donc pour excusé. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 couples de bœufs et je m'en vais les éprouver. » « Je te prie, tiens-moi pour excuser. » Et un autre dit, « J'ai épousé une femme, c'est pourquoi je n'ai pu y aller. » Alors, on a dans le psaume 119, les versets 59 à 63, un comportement qui nous est donné par David et qu'on se devrait d'imiter. Alors ici, David dit, « J'ai fait le compte de mes voies. » Et j'ai rebroussé chemin vers les témoignages. Je me suis hâté, je n'ai point différé à garder tes commandements. Les troupes des méchants m'ont pillé, mais je n'ai point oublié ta loi. Je me lève à minuit pour te célébrer à cause des ordonnances de ta justice. Je m'accompagne de tous ceux qui te craignent et qui gardent tes commandements. Alors vraiment, l'idée, c'est d'examiner nos voies. Et rebrousser chemin, ça veut dire qu'on ne va pas dans la bonne direction, on s'en aller dans la bonne. Et il dit, d'un point différé, on a tous tendance à remettre au lendemain, « Ah, je commencerai ça la semaine prochaine, je commencerai ça l'année prochaine. » C'est toujours plus tard. Alors, on se devrait de faire comme David, de ne pas différer et de ne pas oublier sa loi. Et quand il dit dans le verset 62, je ne pense pas qu'il nous enseigne qu'il faut se lever à minuit pour célébrer, mais je pense que l'idée, c'est vraiment de consacrer du temps au Seigneur. Et le dernier verset, bien, c'est vraiment de chercher la compagnie de ceux qui craignent le Seigneur. Troisième question, est-ce que je me contente de peu lorsqu'il s'agit des choses concernant le bien de mon âme? Suis-je content d'un peu de grâce, d'un peu de connaissance de Dieu, d'un peu de communion avec Dieu, d'un peu de soucis des choses célestes et spirituelles? Alors, Proverbe chapitre 30 et versets 15 et 16 nous dit qu'on ne se devrait pas être comme des sangsues. Alors, il dit, verset 15, « La sangsue a deux filles. Donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. » Alors, quand on est dans le monde et qu'on nourrit les choses du monde, souvent, on en veut plus. Donne. T'sais, on n'a jamais assez. Alors, Amos, chapitre 8, verset 5. Alors, si tu as un reproche, c'est que le Seigneur fait à son peuple. Il dit, « Et qui dit, quand sera passé ce mois et nous débiterons le blé? Et quand sera passé ce sabbat et nous mettrons en vente le froment en faisant l'effort plus petit, augmentant le cycle et falsifiant les balances pour tromper, afin que nous acquérions les chétis par argent et le pauvre pour une paire de souliers et que nous débitions les criblures du froment. » Alors, autrement dit, l'idée d'Amos 8.5, c'est vraiment que quand les gens sont dans des activités de nature spirituelle, ils ont toujours hâte que ça finisse pour retrouver leur choses du monde. Proverbe 1, verset 19. « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Est-ce que nous cherchons la compagnie de ceux qui sont riches en grâce et proches du Seigneur? Désirons-nous davantage les choses du monde que les choses célestes et Dieu lui-même? Question 4. En quelle chose je trouve le plus de contentement et de satisfaction? Psaume 4, versets 5 à 8. Sacrifiez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir des biens? Lève sur nous la clarté de ta face, ô Éternel. Tu as mis plus de joie dans mon cœur qu'ils n'en ont autant que leur froment et leur meilleur vin ont été abondants. Je me coucherai et je dormirai aussi en paix, car toi seul, ô Éternel, me feras habiter en assurance. Vraiment, le verset clé, c'est le verset 7, qui dit qu'il y a plus de plaisir, plus de joie à être proche du Seigneur que quand les païens, autant de leur récolte, le bon vin et les récoltes de céréales. Alors, c'est très significatif qu'on trouve plus de joie dans nos cœurs, dans les choses spirituelles que dans les choses temporelles. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel se campe tout autour de ceux qu'il craignent et les garantit. Savourez et voyez que l'Éternel est bon. Oh, que bienheureux est l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 19, versets 7 à 10. La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Le témoignage de l'Éternel est assuré, donnant la sagesse aux simples. Les commandements de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur et fait que les yeux voient. La crainte de l'Éternel est pure, permanente à perpétuité. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité et ils se trouvent pareillement justes. Ils sont plus désirables que l'or, même que beaucoup de fin or. est plus doux que le miel, même que ce qui distille des rayons de miel. Alors, plus que l'or, mais il rajoute encore une qualification à ça, plus que l'or fin. Alors, quand l'or est fin, elle a encore plus de valeur, elle a encore plus. Alors, il dit que les choses, la crainte de Dieu, ça a le plus de valeur que de l'or. Ça devrait nous faire réfléchir. Malachie, chapitre 3, verset 14. Alors ici, c'est encore dans le cadre d'un reproche que le Seigneur fait à son peuple. Et la question est qu'on doit se poser, ce sommes-nous tombés aussi bas? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Et qu'avons-nous gagné d'avoir gardé ce qu'il a commandé de garder et d'avoir marché en pauvre état pour l'amour de l'Éternel des armées? Autrement dit, le peuple est en train de dire, que ça donne, servir l'Éternel? On ne gagne rien à faire ça. C'était épouvantable l'état dans lequel ils étaient rendus. Lorsque nous trouvons peu ou pas de plaisir à assister à nos cultes, lorsque prier nous ennuie, lorsque lire les Saintes Écritures nous semble un fardeau, lorsque la fréquentation des personnes païennes nous bénit davantage que celle des frères et sœurs en Jésus-Christ, implorons le Seigneur de nous sonder et de nous remettre sur la bonne voie. Question 5. Est-ce que j'utilise des moyens questionnables ou illicites pour m'approprier les choses du monde? Est-ce que je néglige les choses célestes, spirituelles, licites et commandées par la Bible? Alors, il y a vraiment deux questions dans la même question. Un, c'est utiliser des moyens illicites pour s'approprier des choses du monde. L'autre, c'est négliger les choses spirituelles qui sont licites et commandées par la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alors, on a encore Amos 8, versets 4 et 5, qui nous parle de la tendance qu'on peut avoir d'exploiter autrui et d'avoir des balances fausses ou utiliser la falsification dans nos relations avec les autres. Verset 4, « Écoutez ceci, vous qui engloutissez les pauvres, même jusqu'à désoler les affligés du pays, et qui dites, « Quand sera passé ce mois, et nous débiterons le blé, et quand sera passé ce sabbat, et nous mettrons en vente le froment, en faisant l'effort plus petit, augmentant le cycle et falsifiant les balances pour tromper. » Dieu a donné des moyens de grâce, la prière, la méditation, l'écoute de la parole de Dieu, l'assistance au culte, l'évangélisation, la communion fraternelle, etc. Sachons les utiliser avec abondance. Sixième question. Est-ce que je suis dominé par l'amour du savoir, de l'éloquence et autre chose du monde? Alors, Paul ici dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 et 5, « Et ma parole et ma prédication n'a point été en paroles persuasives de la sagesse humaine, mais en évidence d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit point l'effet de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. » Et la septième question, « Suis-je attristé davantage par la perte des choses de ce monde que par la perte des choses spirituelles? Plusieurs sont endeuillés amèrement par la perte de conjoints, d'enfants, de maisons ou de toute autre sorte de biens. Souvent, ils pleureront, garderont le lit ou même se priveront de nourriture. Cependant, ils n'exprimeront pas la même tristesse lorsqu'un ministre de Dieu leur sera enlevé par la mort ou autrement, lorsqu'ils seront privés de culte ou de rassemblement religieux. » Lorsque nous sommes davantage affligés par la perte des personnes ou des biens de ce monde que par la perte des personnes ou des choses de nature spirituelle, c'est une bonne indication que nous sommes en amour avec le monde. Alors, j'ai mis deux applications. La première, voyons-nous clairement la nécessité de se faire rappeler de ne point aimer le monde et les choses pratiques et les usages pratiques de cette doctrine. Alors, les usages étaient que ça nous amenait à constater la profonde corruption de nos natures. La deuxième, c'était de savoir que peu de chrétiens ont atteint une victoire définitive sur ce sujet. Troisièmement, que nous devons pratiquer le contentement. Quatrièmement, que cet enseignement divin nous apporte une réprimande qui nous est bien nécessaire. La deuxième application, implorons le Seigneur de nous donner le courage de répondre très honnêtement aux sept questions pour y vérifier notre degré d'amour du monde et de nous donner d'avoir de plus en plus de victoires. Pour sa grâce et pour sa gloire.
Amen. Amen.